Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Un cortège funèbre sera organisé ce lundi à partir de 9h à l'honneur du général défunt Amadou Toumani Touré. Le départ du cortège est pris à l'Institut de Marchou en passant par le monument de l'indépendance pour revenir à la chapelle ardente du génie militaire. Il est organisé par la grande chancellerie des ordres nationaux. Après 5 mois d'arrêt, les activités de la 41e session ordinaire du comité de suivi de l'accord auront lieu aujourd'hui à Bamako. 9 femmes venues de mouvements armés signataires de l'accord et de l'administration prendront part aux travaux. Les Nations Unies annoncent un soutien à la transition malienne pour faciliter le retour des déplacés et l'organisation des futures élections. Le point dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomaïga à la maison de Gagny Kanté. Bonjour à toutes et à tous. Les obsèques de l'ancien président Amadou Toumani Touré auront lieu demain mardi 17 novembre à la place d'armes du génie militaire. L'annonce a été faite par la présidence de la République. La dépouille mortelle d'Amadou Toumani Touré a été accueillie ce samedi 14 novembre par les autorités de la transition à l'aéroport international Modibo Keïta en provenance d'Istanbul en Turquie. Un cortège funèbre sera organisé tout à l'heure à partir de 9h par la grande chancellerie à l'honneur de l'illustre disparu Moussa Mali Sissoko nous en
dit. Le cercueil de l'ancien président ATT est arrivé ce samedi 14 novembre vers 4h du matin à l'aéroport international Modibo Keïta. Le vice-président, le premier ministre ainsi que les membres du gouvernement se sont inclinés devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. De nombreux Maliens ont aussi effectué le déplacement pour témoigner leur reconnaissance et sympathie à l'endroit de l'ancien président. Les obsèques nationales du défunt sont prévues ce mardi 17 novembre 2020 à 10h à la place d'armes du génie militaire. Mais avant, un cortège funèbre quittera l'ex-Institut Marchaux lundi 16 novembre à 9h en passant par les monuments de l'indépendance et l'hippopotame pour ensuite revenir au génie militaire par le même itinéraire, explique la grande chancellerie des ordres nationaux dans un communiqué. En attendant ces funérailles, une veillée funèbre est prévue au génie militaire. Un livre d'or de condoléances sera ouvert du lundi 16 novembre à 8h au mardi 17 novembre 2020. Rappelons que le général Amadou Toumani Touré est décédé le 10 novembre dernier des suites d'une maladie à Istanbul, en Turquie, à l'âge de 72 ans.
Un deuil national de 3 jours a été décrété depuis ce lundi 16 novembre sur l'ensemble du territoire national à la mémoire du défunt général Amadou Toumani Touré. Les hommages à l'entroi de l'ex-président se multiplient dans sa ville natale. À Mopti, des populations témoignent leur affection à l'ancien président. Elles disent se rappeler encore de ses œuvres depuis Mopti. Voici quelques réactions des habitants recueillies par notre correspondant Mamoudou Boko.
C'est un rassembleur. Il est venu avec un gouvernement d'union nationale. Il est venu avec un projet de société qui rassemble tous les Maliens. Et voilà pourquoi même ça a été l'un de ses slogans. Mais retrouvons ce qui nous unit.
Tout ce que je retiens de lui, c'est un bâtisseur. Il a suivi les traces des grands hommes du Mali. C'est une personne qui incarne tout ce qu'il a dans lui. C'est un personnage aussi très tolérant.
Et c'est une grande fête pour le plateau d'Ogon, surtout le cercle de Bayangara, qui retient en l'homme la discrétion, l'honnêteté, la courtoisie, l'efficacité et on peut dire que c'est un général pour le développement.
L'homme, il était un bâtisseur, c'était un rassembleur. Il avait beaucoup de cœur pour le Mali, il avait beaucoup d'ambition pour le Mali. C'est vrai, tout ce qu'il a voulu faire, il n'a pas pu faire tout ça. Mais le peu qu'il a fait, il faut que ça soit reconnu aussi.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Bientôt, les Nations Unies vont apporter un soutien aux autorités de la transition pour faciliter le retour des déplacés, mais aussi à l'organisation des futures élections. L'annonce a été faite vendredi dernier lors de la visite de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, a annoncé également des appuis aux organisations féminines de la région de Mopti pour renforcer l'autonomisation des femmes. Écoutons donc sa réaction.
Nous sommes aussi ici pour pouvoir voir dans quelle mesure apporter plus de ressources qui contribueront à faire sortir le Mali de cette situation à laquelle le pays est confronté. Il s'agirait également de voir dans quelle mesure apporter de l'appui pour pouvoir ramener ces personnes déplacées dans une situation assez stable. Il est vrai qu'il n'est pas facile de se déplacer en ce net moment, vu la situation de pandémie de COVID-19, mais nous pensons que le plus important pour nous, c'est de pouvoir être ici, écouter discuter et puis par la suite discuter avec la communauté internationale et voir dans quelle mesure nous apporterons notre appui davantage. Au niveau de Mopti, nous sommes en train de renforcer des capacités pour pouvoir autonomiser les femmes et leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie.
Panique dans le Ganadougou. Des sources locales rapportent que des hommes armés, lourdement armés, ont aperçu mercredi dernier dans les localités de Tela à Dembela de Ganadougou dans la région de Sikasso. Ces présumés djihadistes seraient à la recherche des agents de l'État. Toutes les écoles dans la zone ont été fermées par les autorités locales par crainte de représailles. Selon les mêmes sources, les militaires seraient passés dans ces localités pour se renseigner. Toutefois, ils ne sont pas restés sur place, indiquent les mêmes sources. La 41e session ordinaire du comité de suivi de l'accord aura lieu aujourd'hui à Bamako après 5 mois d'arrêt. L'information a été annoncée par le secrétariat du comité du CSA. La particularité de cette 41e session est la participation de 9 femmes dans le comité issu des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et de l'administration. Un pacte de non-agression entre les chasseurs d'Onso et la communauté Peul de la localité de Nyono a été signé le 7 novembre dernier. Il s'agissait pour les organisateurs de mettre fin à un cycle de violences, d'assassinats, d'enlèvements et de viols, ainsi que de pillages de biens matériels dans les zones concernées. Quel a été le degré d'implication des communautés? À quoi servent de telles initiatives? La question était au centre du grand dialogue de Studio Tamani du 10 novembre dernier. Les détails avec Idrissa Sakou.
S'il n'est pas possible d'éviter les conflits, il est alors nécessaire d'essayer de les résoudre de la manière la plus positive et constructive possible, selon Mohamed Mamata Touré, porte-parole de l'association Faso Dambi. Pour lui, la résolution réussie d'un conflit ne peut se faire sans l'implication des communautés. Il déplore l'absence au forum des vrais acteurs.
Les vrais acteurs qui sont sur le terrain, ceux qui ont les armes en main, ceux qui sont en train de perdre leur bétail, leurs biens, et ce sont eux qu'on doit appeler pour qu'ils puissent venir s'asseoir autour d'une table de négociation.
Cet avis n'est pas partagé par Tidjani Koulibaly, premier adjoint au maire de Nyono. Selon lui, la rencontre a regroupé les autorités, notabilités, responsables des communautés en conflit ainsi que des leaders religieux pour le retour de la paix et de la stabilité dans la zone.
En dehors de la salle, comment certains acteurs peuvent se voir et puis faire des propositions concrètes d'aboutissement à des solutions qui peuvent vraiment nous apaiser? Et je pense que les acteurs qui ont été vraiment à Nyono ici sont des vrais acteurs.
Pour le président du conseil de cercle de Banyagara, au-delà de la signature de ce pacte, il est préférable que l'État s'investisse et reprenne sa place. Ndinde Ongoiba, président du conseil de cercle de Banyagara.
L'État n'a qu'à s'assumer vraiment pour régler la vie sociale dans le cercle de Nyono.
C'est dû un peu à l'absence de l'État. Que l'État se mette à sa place, on peut désarmer tout le monde. Mais tant que l'État ne se met pas à sa place, les gens se trouvent armés pour se défendre.
De l'avis de tous, il est indispensable d'identifier tous les acteurs pour la construction et la consolidation de la paix entre les communautés.
L'Union nationale de travailleurs du Mali maintient son mot d'ordre de grève de 72 heures allant du mercredi 18 novembre au vendredi 20 novembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat de l'INTM revendique la fin des inégalités entre les travailleurs, la discrimination afin d'établir la justice sociale entre les travailleurs. 11 morts et 8 blessés sur le bilan d'un accident de circulation survenu samedi dernier dans la forêt de Faya sur la route de Segou. L'information a été communiquée par les autorités hospitalières. C'est dans ce contexte que le Mali a célébré hier la journée mondiale des souvenirs aux victimes des accidents de circulation. Les autorités chargées des transports en ont profité pour insister non seulement sur le port du casque, mais aussi exiger l'amélioration de la qualité du contrôle technique. Les détails avec Maliki Diallo.
Cette 9e édition de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route est célébrée quelques heures seulement après un grave accident à une quarantaine de kilomètres de Bamako sur la route de Ségou, dans lequel 9 personnes ont perdu la vie et 10 autres blessés. Le ministre des Transports et la directrice de l'Agence nationale de la sécurité routière ont d'ailleurs rendu visite aux blessés à l'hôpital Gabriel Touré avant de procéder à la cérémonie de lancement. Djadje Sako, directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière.
On ne peut pas être à zéro accident, ça c'est vrai. fait, mais qu'on peut éviter les conséquences dramatiques d'un accident. Donc en se protégeant, en respectant scrupuleusement le code de la route.
Au cours de cette journée, le ministre des Transports a dénoncé la mauvaise qualité du contrôle technique des véhicules. Makanfili Sissoko a instruit l'amélioration de ce service.
Les véhicules font le contrôle technique aujourd'hui et seront impliqués dans un accident demain ou après-demain à cause d'une panne de frein ou de pneus. Or, ceux-ci sont vérifiés au contrôle technique. J'insiste à ce que le contrôle technique soit rigoureux. Aucun véhicule ne doit avoir le récit du contrôle technique sans y être en bon état.
Selon l'Agence nationale de la sécurité routière, 663 personnes ont trouvé la mort en 2019 dans les accidents de route.
A rappeler que deux blessés de cet accident ont succombé à leurs blessures quelques heures après leur admission à l'hôpital, ce qui porte à 11 le nombre de morts et la réduction des blessés. Faisons à présent la situation de la COVID-19. À la date du dimanche 15 novembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 32 nouveaux cas positifs, 13 patients guéris, 2 décès. Samedi dernier, 62 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays. Ainsi, la situation cumulée est de 3900 cas confirmés, dont 2949 guérisons et 141 décès. Place maintenant notre rubrique Acti Covid présentée par Sekou Gadjigo.
Contrairement à l'année dernière, le taux de fréquentation des hôpitaux a considérablement baissé d'un tiers au centre hospitalier universitaire du Point G. Cette situation est due à la pandémie de COVID-19 selon des responsables du centre. La crise sanitaire affecte énormément nos revenus, ajoute-t-il. Il recommande toutefois aux populations de ne pas avoir peur de se faire consulter à cause du coronavirus. Notre reporter Raïssa Tadjara s'est entretenu avec le professeur Yacouba Toulouba. On l'écoute.
L'avènement de COVID a beaucoup impacté. Et qui dit hôpital, il y a quand même des entrées, des sorties, les recettes. L'impact est inhérent surtout le taux d'occupation des lits de façon générale et puis l'afflux des patients. Dans les mois, les autres années, on avait au moins par mois 400 admissions quand on comptabilise consultations. Au mois de mars, avril, on est descendu à moins de 100. Par exemple, si l'hôpital devait avoir 100 millions par mois, vous verrez qu'on se retrouve à 20-30 millions. Donc, ça a quand même un peu démotivé les ressources humaines parce que les malades se disent attraper le COVID dans la structure de santé, c'est un peu démotivant. Le plus incriminé a été quand même la transformation de notre service de réanimation en réanimation COVID. Donc, l'hôpital ne faisait pas d'intervention chirurgicale. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir, mais il faut épouser cette pandémie-là et intégrer les activités avec cette pandémie. Même si vous toussez, et on peut croire que c'est la COVID, mais venez quand même voir c'est quel genre de toux. Il y a des milliers d'étiologies pour une toux. Ce n'est pas que la COVID. Donc n'ayez pas peur.
Écoutons à présent la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Boukenem Lebib, médecin-chef du centre diabétique de Bamako.
Allô docteur, selon OMS, un décès sur 5 de COVID-19 est lié au diabète. Est-ce que c'est le cas au Mali?
Le diabète par rapport à la COVID-19, il y a vraiment un fort lien. En général, c'est des personnes âgées fragilisées par leur maladie chronique, dont le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Et surtout, il y a carence en vitamine D. 70% de mes patients sont en carence de vitamine D. Et c'est un risque de développer la COVID. Personnellement, tous les patients diabétiques que j'ai, je demande systématiquement le dosage de la vitamine D.
C'est ce qui met fin à ce numéro d'Actu COVID. Vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant le 37-321, option 3 et 4.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition matinale présentée par Imran Akilo à Maïga, mise en onde à Gagny, à Kanté. Vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant la plateforme Viamo au 37 321.